Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à la visite organisée des sites historiques de Glengarry. Après presque 15 ans de tours organisés des lieux d'intérêt historique pour Glengarry et ses environs, la pandémie nous a motivés à innover dans notre façon de faire cette année. Ainsi, c'est une visite autonome avec audio-guide que nous avons spécialement préparée pour vous. Nous avons recruté des guides accompagnateurs pour chacun des 7 sites constituant votre visite. Cette formule vous permettra d'y aller à votre propre rythme. Peut-être même prendre le temps de pique-niquer dans l'un de nos sites enchanteurs et vous attarder à votre guise. Préparez-vous à être transporté en arrière dans le temps de la colonisation et revenir tranquillement jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ici, au musée Glengarry Pioneer Museum, que débute votre visite des sites historiques de Glengarry. Le musée Glengarry Pioneer Museum se trouve dans le petit village de Dunvegan, dans le comté de Glengarry Nord. Juste à quelques minutes au sud de l'autoroute 417, il est situé presque à mi-chemin entre Ottawa et Montréal. Le musée comprend 10 bâtiments, dont 2 granges, une forge, une cabane de trappeurs, une loge orangiste, un hangar, une école de rang et un hôtel. Tous les bâtiments d'héritage sont en structure de bois et représentent la vie des pionniers de la région au cours du 19e siècle. L'hôtel, prénommé le Star Inn, fut construit sur place dans les années 1840 et servait d'arrêt aux diligences. Les autres bâtiments ont tous été déménagés ici au musée à la suite de son ouverture. Ils sont tous du comté de Glengarry. Au cours des 60 dernières années, le musée a amassé toute une collection. Artefacts, tous donnés par des gens de la communauté qui représentent la vie des Glengarriens du début des années 1800 jusqu'en 1915. Ceux-ci incluent les équipements agricoles, des textiles, des vêtements, des photos, des peintures, des meubles, des outils et même des récits oraux. Les premiers colons à s'établir dans cette partie de Glengarry Nord sont arrivés à la fin du 18e et début du 19e siècle et ils étaient majoritairement des Écossais des Highlands. De son côté, Glengarry Sud connut une vague d'immigrants loyalistes de l'Empire uni, eux aussi majoritairement d'origine écossaise. Cette forte prédominance écossaise dans la région continua longtemps d'inciter des vagues d'immigrants écossais à venir ici s'établir dans la région près de leurs compatriotes. C'est pour cette raison que la majorité de nos villages sont nommés d'après des endroits en Écosse ou portent le nom des premiers colons à s'établir dans la région. Alors, on y retrouve des noms comme Dunvegan, Loch Niver, Loch Hill, Skye, MacLeod, Stewart's Glen et bien d'autres. Même le village avoisinant, celui de Maxville, porte son nom à cause de tous les villageois portant un nom commençant soit par Mac ou par Mac. Encore aujourd'hui, on peut sentir la force du sentiment d'appartenance aux racines écossaises. Il n'est pas inhabituel d'entendre des cornemuses lorsqu'on se promène sur le terrain du musée pendant la fin de semaine. Le village de Dunvegan, lui, était à son comble à partir des années 1830 jusqu'au début du 20e siècle. Une grande église en rondins de bois fut construite dans les années 1840, presque en même temps que le fameux Star Inn et un magasin général sur le coin opposé, qui a été maintenant converti en maison. On y retrouvait aussi une forge, un fer-blantier, un cordonnier, un tisseur, une scierie, une fromagerie et une école. Au cours des années 1880, le chemin de fer fut construit et passa dans un endroit juste au sud de Dunvegan. Les villages avoisinants le chemin de fer devinrent alors prospères et ceci marqua le début de la fin pour des petits villages comme celui de Dunvegan. Aujourd'hui, debout sur le perron du Star Inn à l'intersection du village, il est difficile de s'imaginer un passé aussi différent. Un passé peut-être même dans lequel on pouvait magasiner, livrer au tisseur la laine de ses propres moutons, ou ramasser une commande de bois à la scierie pendant que son petit chariot se faisait réparer. Aujourd'hui, le village de Dunvegan est habité par une quarantaine de familles. On y retrouve toujours l'église presbytérienne de Kenyon, la salle communautaire, ainsi bien que, bien sûr, le musée. Le musée Glengarry Pioneer Museum est un organisme caritatif à but non lucratif qui est subventionné par différents niveaux gouvernementaux et une communauté très impliquée et qui a à cœur son héritage. Le musée est le gardien historique de l'héritage local, de ses artefacts, de ses récits oraux. Il offre des aperçus du passé aux futures générations par le biais d'expositions, d'événements, de visites guidées et d'outils éducationnels prêtés aux écoles ou à tout autre groupe intéressé. Le musée est ouvert pendant la saison estivale, soit à partir de la longue fin de semaine de la fête de la Reine, qui est au mois de mai, jusqu'à la longue fin de semaine de la fête du travail en septembre. Il y a aussi des événements spéciaux durant l'Halloween et le temps des fêtes. Le terrain est spacieux et on y retrouve plusieurs tables de pique-nique ainsi qu'un grand pavillon à air ouverte. Les employés sont alors disponibles pour des visites guidées où vous pouvez explorer à votre propre rythme. Apportez votre pique-nique ou ramassez un mets prêt à apporter dans un de nos restaurants locaux pour venir passer un après-midi au Glengarry Pioneer Museum. Contactez le musée pour les heures d'ouverture et une liste à jour des programmes. La meilleure façon serait de visiter le www.glengarrypioneermuseum.ca. Ainsi, je vous remercie pour votre intérêt et je vous souhaite une très bonne visite.
Bonjour et bienvenue au tour virtuel enregistré d'Alexandria. Nous espérons que vous apprécierez cette page d'histoire locale de notre communauté. Commençons, Alexandria, Ontario, un clin d'œil historique du développement industriel.
Point de départ, le Mill Square.
Ce gros édifice en pierre abritant aujourd'hui le Priest's Mill Glassworks est nul autre que l'ancienne meunerie d'Alexandria, connue sous le nom de Alexandria Mill. C'était un moulin à farine où les agriculteurs apportaient leur blé à moudre. Les meules tournèrent jusqu'aux années 1960. L'édifice fut érigé en 1905 et fut le troisième au même endroit. Les deux premiers furent la proie des flammes. Le moulin original fut construit en 1819 par le Big Bishop, le révérend Alexander MacDonnell, curé de la paroisse de Saint-Raphaël, à 14 km d'ici, et subséquemment premier évêque du Haut-Canada. Ce fut certainement une construction rustique, en pièce sur pièce, avec un barrage sommaire pour retenir l'eau de la rivière Gary, actionnant une roue hydraulique fournissant l'énergie nécessaire à faire tourner les meules, un exploit pour l'époque. Rapidement, le moulin devint fonctionnel, le premier dans les environs, la première industrie et le premier édifice qui donna naissance à Alexandria. Quelques colons s'étaient établis avant 1819, mais l'avènement du moulin à farine accéléra le développement du hameau, connu originalement sous le nom de Priest's Mill, en mémoire du Big Bishop. La seule possibilité pour un agriculteur d'Alexandria, avant le moulin à farine du Priest's Mill, était de charger sur son épaule une poche de grains et de marcher jusqu'à Williamstown, construit dans les années 1790, ou à Martintown, construit en 1801. Le Big Bishop était un colosse, mesurant plus de 6 pieds, et aussi grand dans ses ambitions que dans ses œuvres. Arrivé à Saint-Raphaël en 1805, il entreprit de faire construire 2 magnifiques édifices, soit le palais épiscopal, 1808, toujours existant, et l'église de Saint-Raphaël, construite entre 1819 et 1826, détruite par un incendie en 1970 et aujourd'hui devenue un site touristique merveilleusement bien entretenu. Malgré le fait que la paroisse de Saint-Raphaël était petite, les ambitions du curé étaient provinciales. Il encourageait l'immigration en provenance de l'Écosse et de l'Irlande, créait des paroisses au Haut-Canada, faisait construire des églises, des écoles, des moulins et deviendra porte-parole aux différentes instances gouvernementales du Canada et de la Grande-Bretagne. À la fin du 19e siècle, le Priest's Mill fut renommé Alexandria, en l'honneur du révérend Alexander MacDonnell. Peu importe le nom, le petit hameau entra dans une ère d'expansion au moment où D.A. Sandfield MacDonald s'installa au village à l'âge de 27 ans. Déjà bien nanti, il devint le symbole du progrès. Propriétaire du moulin à farine, du magasin général, d'un deuxième à Lancaster, de la majorité des terres du village en devenir, d'une fabrique de potasse et ses produits dérivés, on fait de lui le plus important citoyen de la municipalité. Quelques années plus tard, son implication joua un rôle de premier plan dans le dossier de l'arrivée du chemin de fer à Alexandria par le Canada Atlantic Railway en 1882. Les 4 frères Sandfield MacDonald grandirent à Saint-Raphaël à l'époque du Big Bishop et semblent avoir eu la piqûre de l'entrepreneuriat, même dans cette région éloignée qu'est Alexandria à cette époque. Tous eurent beaucoup de succès, dont 2 particulièrement. John Sandfield MacDonald devint un avocat émérite et un entrepreneur prospère à Cornwall, membre du Parlement pendant 26 ans et premier ministre du Canada de 1862 à 1864 et aussi premier ministre de l'Ontario de 1867 à 1872. Il parlait le gaélique, l'anglais et le français. Son frère cadet, D.A. Sandfield MacDonald, n'a pas seulement été l'entrepreneur le plus prospère d'Alexandria, mais aussi contracteur de canaux, chemins de fer, routes et aqueducs à plusieurs endroits en Amérique du Nord. Pendant les années 1850, simultanément, il entreprit la construction de l'aqueduc de Montréal et, avec ses frères, la construction de la section Montréal-Cornwall du chemin de fer, le Grand Trunk Railway, la conversion à la vapeur du moulin à farine d'Alexandria et la construction d'un moulin à scie, aussi actionné à la vapeur sur la route 43, où la caserne des pompiers est située actuellement. D.A. a aussi été député législatif, membre du cabinet et lieutenant-gouverneur de l'Ontario de 1875 à 1880. En 1892, il fonde le célèbre Glengarry News, toujours appartenu par ses descendants. Et sa résidence, une magnifique maison jaune, Gary Fenn, du côté ouest du Mill Square, nous présente avec fierté son legs du passé.
Conduisez vers le nord sur la rue Ottawa pour ensuite vous diriger vers l'ouest sur la rue Kenyon, route 43, jusqu'à la caserne des pompiers.
C'est à cet endroit que D.A. Sandfield construisit son moulin à scie pendant les années 1850. Trois décennies plus tard, au début des années 1880, le moulin à scie a été repris par un entrepreneur nouvellement arrivé à Alexandria, J.T. Shell, né près de Woodstock, en Ontario. Il s'établit à Alexandria en 1882 et devient rapidement l'entrepreneur le plus important de la communauté, avec ses entreprises de fabrication en métal et en bois, de pair avec l'empire commercial de Monroe et McIntosh de construction de traîneaux, de buggy, de chariots et calèches de tout genre. Les historiens nommeront cette époque de 1880 à 1920 l'âge d'or industriel d'Alexandria. Dès son arrivée dans Glengarry, Shell s'associe avec D.M. McPherson, le Cheese King pour la fabrication des boîtes à fromage et autres produits d'ébénisterie. Il gérait des moulins à scie à Alexandria, Dorney, Williamstown et Monklin, ainsi que la fonderie de métaux et la manufacture de produits en bois sur les lieux de la caserne de pompiers actuelle. Il a fourni les ferrures et accessoires de métal intérieur pour le Victoria Memorial Museum d'Ottawa, en 1911, et les bureaux des postes principaux de Toronto et Winnipeg. Et j'en passe. Si vous êtes propriétaire d'une maison centenaire dans notre région et qu'elle possède des pièces d'ébénisterie de fantaisie sur la véranda ou des escaliers luxueux en bois, il y a de bonnes chances que ce soit des pièces produites dans les ateliers Shell. Il construisit aussi des maisons, des écoles, des fromageries, des commerces et entreprit le contrat d'un chemin de fer en 1906, soit le tronçon Hawkesbury-Ottawa du Canadian Northern Railway. Shell a été conseiller municipal dans les années 1890. Moment où Alexandria obtint son aqueduc et son électricité. De plus, de 1900 à 1908, il fut député de Glengarry au fédéral. Décédé en 1916, ses entreprises disparurent rapidement après sa mort. Rien n'est resté de son héritage important à notre communauté, même pas le nom d'une rue.
Allez vers l'est sur la rue Kenyon jusqu'à la rue Main, ensuite vers le nord jusqu'à la rue Saint-Georges, virez vers l'est.
Le coin Main et Saint-Georges a été, pendant au moins deux générations, le coin M&M, l'endroit où cinq manufactures de l'industrie de traîneaux et buggy de Monroe et McIntosh ont produit le célèbre buggy de Glengarry et ses multiples voitures tirées par les chevaux. La glorieuse époque de ces majestueux véhicules de 1880 à 1920. À son apogée, avant la Première Guerre mondiale, M&M produisait plus de 10 000 traîneaux et buggies par année, distribués partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Hugh Munro, un forgeron de métier, et John D. McIntosh, un charron, étaient cousins et grandirent à la ferme dans Glengarry. Munro à l'ouest de Glenroy et McIntosh à Apple Hill. Leur collaboration débute dans les années 1870 et au milieu des années 1880, ils avaient érigé leur complexe d'usines et de fabrication, motivé par la prospérité apportée via le chemin de fer. C'était donc devenu le coin M&M. McIntosh, calme de nature, gérait le côté production de l'entreprise. Et le plus extraverti, Munro, était le super vendeur itinérant de la compagnie. Il y avait des usines séparées pour l'ébénisterie, le métal, le rembourrage et l'expédition. M&M construisait des traîneaux l'été et des bogies l'hiver, toujours prêts pour la prochaine saison. On amenait sur chariot les véhicules tout neufs jusqu'à la gare d'Alexandria, où ils étaient chargés dans les wagons de marchandises. M&M a été le plus grand expéditeur par chemin de fer de produits manufacturiers à Alexandria. Plus de 200 employés travaillaient pour M&M. Et les besoins en matières premières, tels le bois d'œuvre vendu par les agriculteurs environnants, apportèrent une grande période de prospérité à la communauté et au comté de Glengarry. N'oublions pas que le cheval et ses nombreux types de chariots produisirent une révolution des moyens de transport vers la fin du 19e siècle. Nombreux sont les gens qui, pour la première fois, pouvaient se servir de leurs propres moyens de transport pour se déplacer là où ils le désiraient. Cette liberté est naturellement associée avec l'avènement de l'automobile. Mais le tout commença tout d'abord par le cheval et son buggy. Munro et McIntosh furent actifs dans la vie publique, mais particulièrement Munro. Ils furent membres du conseil municipal d'Alexandria. Munro fut aussi préfet et maire ainsi que député pour deux mandats à l'Assemblée législative de l'Ontario. Les deux contribuèrent grandement à la construction de Church on the Hill et ils appuyaient généreusement le Glengarry News. Hélas, dans les années 20, la popularité grandissante de l'automobile a miné le succès des usines M&M. McIntosh décède à un jeune âge d'une maladie rénale et aucun d'eux n'avait d'héritier pour prendre la relève et donner un nouveau souffle à l'entreprise. McIntosh n'a pas d'enfant et Munro, une seule fille, qui maria un dentiste et déménagèrent à Edmonton. Le complexe des cinq usines du coin M&M devinrent silencieuses vers 1930 et furent démolies par 1938.
Poursuivez votre route vers l'est sur la rue Saint-Georges.
Munro et McIntosh vivaient tous les deux sur la rue Saint-Georges-Est, à quelques pas de leurs usines. Munro au numéro 18 et McIntosh au numéro 25. Les deux demeures originales existent toujours. Un fait à observer, les nouvelles plaques commémoratives bleues offrant une note explicative des jadis célèbres résidents.
Allez vers l'est sur la rue Saint-Georges jusqu'à la rue Bishop et dirigez-vous vers le nord.
L'imposante industrie sur la rue Bishop, avant la voie ferrée, est Alltech Biotechnology, producteur de nutriments agricoles. L'édifice fut érigé en 1952 pour la transformation du lait des agriculteurs environnants sous la bannière de Carnation Milk jusqu'en 1999.
Virez à gauche sur la rue McDougall, tout près des voies ferrées, jusqu'à la gare d'Alexandria.
Évidemment, il y a eu de nombreuses usines de fabrication à travers les années à Alexandria. Des petites, des grandes, produisant toute une panoplie de choses hétéroclites. Des wagons de train, des camions de cuisine de rue, des meubles, du pain, du fromage, des vêtements, des souliers, de la litière pour animaux de ferme, des fenêtres, etc. Ici, près de la gare, à une certaine époque, il existait au moins deux usines de fabrication d'importance. La première, celle de Alexander John de Lotbinière McDonald, la Alexandria Woodpipe, produisait des tuyaux de bois d'orme enrobés de fils de fer. La deuxième, Joseph Choquette, propriétaire de la Alexandria Wood Products, confectionnait des bâtons de hockey dans les années 1930 et 1940 pour le Canadien de Montréal, les Bruins de Boston et d'autres équipes de la LNH.
Allez vers l'ouest sur la rue McDougall jusqu'à la rue Maine, virez au nord et passez la voie ferrée jusqu'au gigantesque édifice de moulure Alexandria Molding du côté ouest.
Moulure Alexandria Molding est la plus grande industrie de toute l'histoire de la ville d'Alexandria. Actuellement, ils emploient quelque 400 travailleurs dans notre communauté et un autre 600 à divers endroits de production et ou de distribution à travers le Canada et les États-Unis. Leurs principaux produits sont la moulure, les cadres de portes, les rampes, les colonnes et les panneaux de lambris. Vous pouvez trouver de leurs produits de pain, de bois dur et de composites de bois partout sur le continent américain. Roland Cholette fonda cette compagnie en tant que bois d'œuvre pour la construction au début des années 1940. Un premier virage vers la production de portes et de fenêtres survint vers la fin des années 1940, et un autre pour ajouter la moulure dans les années 1950 a établi les bases de ce fleuron de notre communauté. Alexandria demeure la plaque tournante de moulure Alexandria Molding pour tout l'Est canadien et états-unien, avec son gargantuesque centre de distribution de 220 000 pieds carrés, son usine de production, ses séchoirs et une autre industrie sur le boulevard McDonald dans le parc industriel. De plus, la compagnie range ses matériaux dans un entrepôt sur la rue Sandfield, au sud-est de la municipalité, tout près de l'endroit où, il y a 80 ans, Roland Cholette ouvrait avec de grandes ambitions ce rêve devenu réalité. Sur la côte ouest américaine, l'entreprise Moulure Alexandria Molding gère une usine de production et un centre de distribution dans la ville de Moxie, Washington. Fait intéressant, cette ville fut fondée par des Canadiens français à la fin du 19e, début du 20e siècle. D'autres centres de distribution sont situés à La Porte, Indiana, et à Wilkes-Barre, Pennsylvania. La production en bois franc est concentré à Bradford, Ontario, au nord de Toronto, une ville comme Alexandria, ayant l'exploitation forestière et l'ébénisterie inscrites dans son passé. Nous vous remercions cordialement de votre participation à notre tour virtuel enregistré. Nous espérons que vous avez bien apprécié. À la prochaine visite.
Bonjour et quel plaisir de vous recevoir. Bienvenue à la maison McDonnell, le nouveau local des archives de Glengarry. L'édifice de style géorgien a une longue histoire. Il date de 1822, presque centenaire. Il fut construit par le colonel Angus McDonnell, neveu du premier évêque du Haut-Canada nommé Alexander McDonnell. Le colonel possédait presque toute la terre qu'occupe aujourd'hui la ville d'Alexandria. Cette magnifique structure aux murs de pierre calcaire, d'une épaisseur de 2 pieds, furent taillées dans une carrière juste au sud d'Alexandria. Les blocs furent amenés sur le site de construction par des attelages de chevaux. La maison McDonnell occupe un emplacement qui contraste avec l'alignement des rues existantes d'Alexandria. Il faut souligner que la maison a occupé son site des décennies avant que les rues soient mises en place. Parlons maintenant du contenu. C'est la collection la plus variée et volumineuse de l'Est ontarien. Elle couvre l'histoire des comtés de Glengarry. En 2013, les archives furent incorporées et deviennent une corporation municipale. Elle devient par ce fait le dépôt de tous les documents cumulés du comté de Glengarry, nord et sud. Son mandat est de conserver les pièces d'individus, des affaires et des organismes à partir du début de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. On y trouve 265 collections qui sont riches et diverses. Par exemple, des pièces des francs-maçons, des archives des jeux écossais de Glengarry, mieux connu sous le nom de Highland Games, et de la foire de Williamstown, ainsi que les éditions du journal local, le Glengarry News. En 2019, la maison McDonnell devient disponible. Le défi fut relevé par la communauté et les 2 municipalités. Suite à l'achat, la maison a été complètement rénovée. Elle est dorénavant la résidence permanente des archives pour les générations futures. C'est ainsi que se termine notre visite. Merci de votre intérêt et au plaisir de vous revoir bientôt.
Bienvenue à la visite à pied de Williamstown avec David Anderson.
Premier arrêt, la maison Bethune-Thompson. Stationnement derrière la maison.
Votre guide pour la visite de Williamstown est David Anderson. Depuis 31 ans, lui et sa famille sont les locataires agréés de la maison Bethune-Thompson et y vivent à plein temps. En temps normal, ils font visiter l'intérieur de cette belle maison, mais avec le COVID-19, c'est impossible. La petite rallonge située au sud de la maison est la plus ancienne structure domestique de l'Ontario, construite par Peter Ferguson, un ancien loyaliste. Elle a été construite en 1784 dans le style de charpente en bois poteau sur sol, selon lequel les rondelles sont disposées verticalement plutôt qu'horizontalement. En 1784, les premières familles loyalistes réfugiées des 13 colonies américaines sont arrivées et se sont établies au nord. Avant cette colonisation, la région était désignée les terres incultes de la couronne. L'endroit où nous nous trouvons, dans l'est de l'Ontario, faisait partie de la colonie de Québec. Pendant les 8 premières années suivant 1784, cette région faisait alors partie de la colonie de Québec. Tous les documents fonciers de cette époque faisaient référence à Williamstown, Bas-Canada. Pour les chercheurs qui souhaitent retrouver ces 8 premières années de l'histoire, les documents se trouvent à Montréal. La section principale de la maison a été ajoutée en 1804 par le révérend John Bethune, le premier révérend de l'Église d'Écosse du Haut-Canada. Sa descendance est de très bon augure puisqu'il existe une lignée ininterrompue de médecins et d'ecclésiastiques jusqu'au docteur Norman Bethune, célèbre en Chine. Nous aimons dire que le docteur Bethune est le Canadien le plus connu au monde, car chaque citoyen chinois sait qui était Norman Bethune. Le docteur Bethune n'a pas vécu dans cette maison, mais il était l'arrière-arrière-petit-fils du révérend John Bethune et a grandi à Gravenhurst, dans le centre de l'Ontario. Le nom Thompson vient de David Thompson, cartographe et explorateur qui a travaillé pour la Compagnie du Nord-Ouest dans le commerce de la traite de fourrure au Canada. Il est considéré comme le plus grand cartographe au monde. David Thompson a vécu dans cette maison de 1815 à 1836. La maison Thompson est la propriété et est sous la protection de la fiducie du patrimoine ontarien, située à Toronto. Habituellement, nous offrons des visites guidées tout l'été, auxquelles vous pouvez facilement participer simplement en sonnant à la porte et en disant que vous aimez David Thompson. Nous ne pouvons pas effectuer des modifications structurelles au bâtiment, car la fiducie du patrimoine ontarien en assure l'entretien. Comme il s'agit de la plus ancienne maison de l'Ontario, elle est très précieuse. À l'extérieur de la porte arrière, on retrouve une grande marmite en fonte. Lorsque M. Thompson était fermier ici pendant sa retraite, il s'adonnait à la fabrication de potasse. Les branches et l'écorce provenant du défrichage de la terre étaient brûlées pour produire des cendres. Les cendres étaient ensuite lessivées dans des barils, puis le liquide était évaporé dans une grande marmite en fonte fixée sur un trépied au-dessus du feu, créant une poudre blanche appelée cendre de peau. Cette poudre était utilisée pour fabriquer du savon ou sécher davantage pour créer de la cendre perlée, un produit chimique exporté en Angleterre où il servait à blanchir le coton et la laine. Continuez à faire le tour de la maison en passant devant la remise à calèche originale à votre droite. Les fenêtres intérieures de la maison sont originales, mais les contre-fenêtres extérieures sont de style victorien. Les stries de fenêtres intérieures montrent qu'il s'agit de verre crown, tourné en forme de disque puis taillé en carreaux. La propriété a ensuite été vendue à la famille McClellan Robertson en 1834, où ces derniers ont vécu pendant plus de 100 ans. La troisième partie de la maison, avec son solarium, est une réfection d'un côté original de la maison. Sur la pelouse de devant, il y a un panneau bleu de la fiducie du patrimoine ontarien qui décrit l'histoire de la maison. Nous vous recommandons de prendre le temps de le lire. En regardant vers la maison, vous pouvez apercevoir la porte originale de style géorgien. Le toit inhabituel est constitué de feuilles de cuivre trempées dans l'étain. Les feuilles sont serties les unes autour des autres de sorte que les clous sont cachés. Tout est posé en angle pour compenser l'emplacement des clous dans les planches sous-jacentes. Peter Ferguson a eu 9 enfants qui ont vécu dans la maison originale, tandis que le révérend John Bethune a eu 10 enfants qui ont vécu dans la maison principale. L'un des descendants de Bethune est le célèbre acteur Christopher Plummer.
Marche vers Church Avenue, vers l'église unie St. Andrews.
À partir de la résidence Bethune-Thompson, tournez à gauche sur John Street. Vous longerez le bord de la rivière Raisin, appelée à l'origine rivière aux raisins, car avant la colonisation, la région était exploitée par les Français du Bas-Canada. Cette rivière se déverse dans le fleuve Saint-Laurent à Lancaster et est la seule rivière en Ontario à le faire. Les premiers colons écossais ont appelé la rivière Ahwingyu, ou rivière noire en langue gaélique, car les ormes et les saules géants qui longeaient les bords formaient une couronne au-dessus de la rivière, créant une ombre profonde. On disait que les jeunes garçons pouvaient traverser la rivière en se faufilant sur les cimes des arbres. La traversée en bateau entre Lancaster et Williamstown se faisait dans un tunnel pommelé de lumière et de chants d'oiseaux. Le site du village de Williamstown faisait partie d'une attribution des terres de la couronne à Sir John Johnson. De l'autre côté de la rivière, vous pouvez voir son manoir. Il était un loyaliste britannique et un leader militaire pendant la Révolution américaine. Il possédait des terres au Bas-Canada et aux États-Unis. Sir John Johnson a construit son manoir entre 1784 et 1792 et a nommé le village en l'honneur de son père, Sir William. À l'époque, Sir John Johnson était le deuxième plus grand propriétaire de terres en Amérique du Nord après William Penn. Le long de la courbe de la route, nous retrouvons le site du premier moulin sur la rivière Raisin, construit par Sir John Johnson. Ce moulin était situé dans un coude de la rivière, de sorte qu'il y avait un grand étang lorsque la digue était en place. De ce côté-ci de la rivière se trouvait le moulin à grains et de l'autre côté, la scierie. En 1903, le moulin à grains est devenu un moulin à cadre à vapeur. Quelques années plus tard, l'usine Ogilvy a été construite à Montréal, centralisant le processus de cardage et mettant hors de service les petits moulins locaux. On peut encore voir les vestiges du moulin dans la rivière. Le bâtiment datant de l'époque où le moulin était utilisé pour carder les tissus existe toujours. Il s'agit du bâtiment en bois à toit bleu, juste en face de New Life Mills. Il y a une plaque historique bleue avec plus d'informations. Plus en amont de la rivière, il y avait des moulins à Martintown et à St. Andrews. Le moulin à grains de Martintown est toujours là et sera converti en musée.
En route vers l'église unie de St. Andrews.
L'église St. Andrews était construite à l'origine en rondin en 1787 par le révérend John Bethune. La construction de l'église actuelle en pierre a commencé en 1812, a été interrompue par la guerre de 1812 et fut terminée en 1818. Le clocher de l'église porte une inscription indiquant qu'elle a été offerte par Sir Alexander Mackenzie de la Compagnie du Nord-Ouest. Il y a trois plaques historiques à cet endroit, dont une pour le cimetière de l'église qui dit « Tread softly, stranger ». Reverently draw near, the vanguard of a nation slumbers here. Donc, avancez doucement, approchez-vous avec respect, l'avant-garde d'une nation sommeille ici. Une deuxième plaque fait référence à l'église, à la cloche et aux nombreuses années de service des révérends. La troisième plaque est dédiée à Duncan Cameron, policier de la Compagnie du Nord-Ouest, au moment du massacre de la Rivière Rouge, également appelé le massacre de Selkirk. Vous trouverez aussi de nombreuses tombes importantes dans le cimetière si vous avez le temps de les explorer. Dans l'église elle-même, prenez le temps d'admirer les magnifiques fenêtres palladiennes cintrées. Les cadres sont originaux et la plupart des vitraux le sont également. Les balcons permettaient d'accueillir environ 800 personnes.
En sortant de l'église, tournez à droite et continuez sur la première rue à votre gauche, la rue Warren.
Il s'agit de l'une des quatre rues au monde à porter le nom de l'amiral Sir Peter Warren. Il était l'oncle de Sir William Johnson de New York. Irlandais de naissance, il a dirigé les forces britanniques lors de la prise de Louisbourg. Il finira par obtenir plusieurs milliers d'acres de terre près de Albany, dans l'État de New York, sur la rivière Hudson. Il a fait appel à son neveu, William Johnson, en Amérique du Nord, pour venir défricher et gérer ses terres.
Continuez sur la rue Warren jusqu'au site de la plus ancienne foire agricole du Canada.
Une ancienne carte de Williamstown datant de l'époque où Sir John Johnson détenait les baux de tous les lots du village montre que de nombreuses propriétés sont toujours occupées par les mêmes familles. Le site actuel de la foire s'appelait Fair Place of Williamstown. La foire a récemment célébré son bicentenaire. Les expositions, les programmes, les concours et les divertissements représentent le mode de vie agricole et rural. Cette foire patrimoniale à l'atmosphère familiale attire chaque année des milliers de personnes. L'utilisation actuelle du terrain est régie par un codicille selon lequel, si Williamstown cesse d'organiser une foire agricole, les terres doivent revenir à l'actuel baronnet Johnson de New York, Sir Guy Johnson, qui vit en Angleterre. Nous maintenons le contact avec la famille Johnson. La toute première foire a eu lieu en 1818. Pendant les 4 années qui ont précédé cette date, la Highland Society of Canada aurait organisé ces événements sur le terrain de la foire. Cette société a été fondée à St. Raffles par William McGilvery de la Compagnie du Nord-Ouest et l'évêque MacDonnell. Ils se sont rencontrés à St. Raffles par une journée d'hiver tempétueuse pour fonder la société. McGilvery aurait ramené de Londres la charte pour la Highland Society.
Continuez au coin de l'avenue Bethune.
De l'autre côté de la rivière, nous apercevons l'église catholique St. Mary's. Les colonies pionnières de Glengarry étaient très religieuses et Williamstown était à l'origine affiliée à l'Église protestante d'Écosse. L'église St. Mary a été construite en 1847 comme une mission pour l'église catholique de St. Raffles. L'église de St. Mary's possède un remarquable vitrail dédié aux 8 martyrs canadiens. C'est un tableau impressionnant lorsque la lumière du jour y pénètre, montrant les massacres des Jésuites par les Iroquois à Sainte-Marie au pays des Hurons, à Midland en Ontario. En 1930, ces martyrs furent canonisés. Nous terminons notre visite au Glengarry Nor'wester and Loyalist Museum. Cette introduction au village de Williamstown a pour but de vous donner envie d'en savoir plus. Pensez à revenir pour passer plus de temps à explorer ce fascinant village historique de Glengarry. Veuillez maintenant poursuivre votre parcours avec la visite du musée.
Bonjour et bienvenue à notre beau musée qui s'appelle le Glengarry Nor'westers and Loyalist Museum. Niché sur la rive nord de la rivière Raisin, ici à Williamstown, ce dernier musée héberge des artefacts du passé et dépeint les divers récits qui ont formé Glengarry Sud au fil des ans. L'édifice elle-même est une structure en briques à 2 étages de style géorgien. Le terrain a été donné par Sir John Johnson au village pour la construction d'une école. La présente structure de briques fut construite en 1862 et fut opérationnelle jusqu'en 1963. Elle remplace ainsi les 2 premières écoles de nature plus primitive. En regardant attentivement, vous pouvez même constater les noms d'anciens élèves qui sont gravés dans la brique, plusieurs datant du 19e siècle. C'est en 1967 que ce bâtiment a été converti en musée. Vous verrez, le côté est du premier étage du musée abrite le Williamstown Room, où l'on retrouve les œuvres d'art ou des expositions temporaires sur l'histoire locale. Quant au côté ouest, lui, il abrite la nouvelle exposition permanente au sujet des loyalistes qui ont dû fuir leur maison, qui se trouvait dans le Mohawk Valley pendant la guerre d'indépendance, pour s'établir ici dans la région. Ces derniers étaient menés par Sir John Johnson, le fils de William Johnson, après qui le village a été nommé, celui de Williamstown. Ces pionniers d'origine principalement écossaise furent bientôt rejoints par d'autres familles écossaises des Highlands grâce au bishop MacDonnell. Ces vagues combinées d'immigration ont créé la fondation d'une riche culture écossaise dans la région. Même le nom Glengarry est en mémoire des comtés qu'ils ont laissés derrière eux dans les Highlands. L'histoire et l'héritage de ces Écossais loyalistes sont illustrés par les artefacts originaux du musée et permettent aux visiteurs un aperçu de la vie dans le Haut-Canada de la fin du 18e jusqu'au 19e siècle. On y retrouvera aussi des scènes telles que Glengarry durant l'ère victorienne, les écoles de rang et des artefacts de Glengarriens qui ont combattu dans les guerres mondiales. Une partie du deuxième étage est dédiée à de l'espace de bureau et une chambre d'artefacts où a lieu la recherche et le catalogage. Le restant de l'étage, lui, est ouvert au public et héberge plusieurs des expositions Nord-Westers permanentes. Ces expositions démontrent l'histoire de la Compagnie du Nord-Ouest. Fondée en 1779, la Compagnie du Nord-Ouest est composée principalement de petites entreprises de fourrure écossaises basées à Montréal. La Compagnie du Nord-Ouest devient le plus gros compétiteur de la compagnie bien connue, la Compagnie de la baie d'Hudson, jusqu'au moment de leur amalgamation en 1821. Contrairement à la Compagnie de la baie d'Hudson, la Compagnie du Nord-Ouest fut un joueur primordial dans l'exploration de l'intérieur du territoire canadien en jumelant la traite des fourrures et le commerce aux expéditions et à l'arpentage. À l'entrée de l'exposition, les visiteurs seront immédiatement captés par le canot en écorce de bouleau de 26 pieds qui domine la pièce. Ce dernier fut commandé au bâtisseur de renommée, qui se nomme César Nowashish des Atikameks. Il a été commandé par le musée en l'honneur de son ouverture en 1967. On retrouvera aussi plusieurs exemples de marchandises de commerce du 18e et du 19e siècle, d'héritage autochtone et européen, que ce soit des originaux ou des reproductions. Mais pourquoi trouve-t-on une exposition au sujet de la Compagnie du Nord-Ouest ici à Williamstown? Bonne question. Plusieurs des partenaires de la Compagnie Nord-Ouest avaient des liens étroits avec Glengarry, soit car ils sont natifs de cette région ou car ils y ont passé leur retraite. La proximité des villes de Montréal et des rivières du Saint-Laurent et la rivière des Raisins, appelée maintenant Raisin River, ainsi que la forte présence écossaise de la région étaient des qualités fort attrayantes pour les trappeurs d'origine écossaise. Le fameux explorateur canadien et partenaire de la Compagnie du Nord-Ouest, David Thompson, passa ce qu'il estimait être les années les plus heureuses de sa vie, ici, même dans le village de Williamstown. Une partie de l'exposition est dédiée à Sir Alexander Mackenzie, un fréquent visiteur des lieux, puisque sa famille y habitait. Le musée possède plusieurs objets lui ayant appartenu, tels que son étui de compas et la Bible familiale inscrite de sa propre main. Le musée est fier d'exécuter son mandat de préserver l'histoire locale et de la partager avec le grand public et les générations futures. En plus de son exposition permanente, le musée détient de nombreuses autres expositions et activités. Des visites guidées du musée, soit individuelles ou en groupe, peuvent être réservées sur demande. Les terrains du musée ainsi que le Williamstown Room peuvent être réservés par des individus ou des organisations intéressées. Pour plus d'informations et pour les coordonnées et pour les visites guidées. Le tout peut être trouvé à travers notre site web qui est le www.glengarrynorwesternandloyalistmuseum.ca. Laissez-moi répéter, www.glengarrynorwesternandloyalistmuseum.ca. Celui-ci est ouvert normalement du mercredi au lundi, fermé les mardis, de 10h à 17h, à partir de la fin de semaine de la fête de la Reine jusqu'à la fin de semaine de la fête du travail ou simplement par rendez-vous. Vous pouvez nous téléphoner au 613-347-3547. C'est ainsi que se termine la visite. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Et au plaisir de vous revoir.
Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la tournée historique du comté Glengarry. Le Général et la Peanut Line. La Peanut Line, plus connue des résidents de South Glengarry que de ceux des deux cantons au nord, a été créée par la Glengarry and Stormont Railway Company. Cette compagnie a été fondée en 1912 suite à un mécontentement à l'égard des frais de transport imposés par le Grand Trunk Railway et exprimés par l'industrie manufacturière croissante de Cornwall. Toronto Paper et Canadian Colored Cotton figurent parmi les entreprises qui se sont plaintes. Courtaulds allait également devenir un client important du GESR lors de l'ouverture de l'usine de Cornwall en 1925. La GESR, incorporée en 1912, avait pour objectif principal de fournir aux fabricants de Cornwall une autre voie de transport ferroviaire. Il s'agissait d'un embranchement partant de la ligne postale du Canadien Pacifique à Coteau Junction et traversant les cantons de Lancaster et Charlottenburg jusqu'au terminal de Cornwall sur la rue Pitt à la 6e avenue et au hangar à marchandises adjacent à la rue Sydney. La nouvelle ligne devait comporter 5 gares de passagers permettant aux résidents de Glenbrook, Williamstown, Glen Gordon, North Lancaster et Bridgend de se rendre à Montréal et à Cornwall. Cela permettait non seulement de transporter des produits locaux, mais aussi de permettre aux enfants de fréquenter l'école secondaire de Williamstown. La compagnie d'assurance Sun Life est devenue le principal bailleur de fonds de cette entreprise et le 8 mai 1913, le financement était en place et la construction de la ligne a commencé. C'est à ce moment que le général, un nouveau venu à Glengarry, fait son entrée dans l'histoire. Le nom de C.L. Hervey, un ingénieur civil, est en tête de liste des personnes faisant partie de cette nouvelle entreprise. Chilion Longley Hervey est né à Paris dans l'Illinois. Son père était originaire de Maitland, en Ontario. Hervey a fait ses études à Port Hope, à l'Académie militaire de St. John's et à Rose Polytechnic dans l'Indiana. Il a travaillé comme ingénieur pour construire des chemins de fer aux États-Unis, au Canada et à Cuba. Il a pris un congé le temps d'exercer ses compétences militaires lors de la guerre hispano-américaine, au cours de laquelle il devient sergent. La Peanut Line fut terminée en novembre 1914 et Hervey, qui habitait maintenant en dehors du village, a été invité à un déjeuner de célébration à Williamstown. À cette époque, la ligne était déjà officieusement ouverte au transport de marchandises et un service de train de voyageurs a commencé le 20 mars 1915 à l'achèvement des gares. Le Canadien Pacifique a pris un bail de 99 ans sur le GESR le 1er juin 1915. La ligne est devenue la sous-division de Cornwall du CPR. Pendant Pendant que la construction de la ligne progressait, Hervey était occupé à promouvoir une autre ligne ferroviaire dans la région allant de Cornwall à Hawkesbury via Martintown, Alexandria et Vinclickill. Malheureusement, cette ligne n'a pas été construite, les ressources étant nécessaires ailleurs pour l'effort de guerre. Au printemps 1915, le ministère de la guerre en Grande-Bretagne a demandé au Canada de fournir deux compagnies de construction ferroviaire. Le Canadien Pacifique a répondu à cette demande en formant le Canadian Overseas Railway Construction Corps, composé de 500 hommes choisis. M. Hervey s'est porté volontaire pour faire partie de ce groupe et a été placé à la tête de l'une des compagnies et a immédiatement été promu au rang de major. En août 1915, Hervey et ses hommes étaient en France. Les compétences des Canadiens en matière de construction des chemins de fer étaient légendaires, en particulier lorsqu'il s'agissait de construire des structures à tréteaux pour remplacer les ponts détruits ou endommagés. Le CORCC a également été le premier à construire des chemins de fer à voie étroite, 700 mm de large, pour remplacer rapidement les routes et les voies ferrées régulières qui avaient été détruites. En cela, les Canadiens ont joué un rôle extrêmement important dans la logistique de la guerre. En janvier 1917, Hervey est promu lieutenant-colonel et commande le 4e bataillon Canadian Railway Troops. Cette unité a participé avec beaucoup de courage aux batailles de la crête de Vimy et Passchendaele. Hervey a été mentionné dans les dépêches à trois reprises. Pendant l'offensive allemande du printemps 1918, les troupes de Hervey faisaient avancer leur chemin de fer à voie étroite lorsqu'elles ont été appelées à couvrir le retrait des Alliés. Les troupes ferroviaires se sont distinguées au cours de cette action et pour cela, Hervey a reçu le Distinguished Service Order. L'expertise de Hervey en matière de logistique sur le champ de bataille est universellement reconnue et en juin 1918, il est rappelé au War Office à Londres, promu au rang de général de brigade. Il a également été décoré par le roi George V au palais de Buckingham. Après la guerre, le général Hervey est rentré chez lui près de Williamstown, auprès de sa femme et de ses quatre enfants. Il avait rendu de grands services au Canada. Il semble que sa carrière de constructeur de chemin de fer soit terminée. Il entreprend de se naturaliser en tant que Glengarryan. Il était un héros de guerre et une carrière politique semblait être un bon point de départ pour sa nouvelle vie. Lors des élections fédérales d'octobre 1919, le général se présente comme candidat conservateur indépendant pour les comtés de Glengarry-Stormont et il est vaincu de justesse. Il se présente à nouveau aux élections de 1921 en tant que conservateur, mais il est vaincu une deuxième fois par J.W. Kennedy, le candidat progressiste. Le général avait réussi à obtenir l'appui des résidents des villes et des villages environnants, mais il ne parvient pas à obtenir le vote des agriculteurs. Entre-temps, la Peanut Line du GSR a continué de prospérer pendant la retraite du général, ce dernier ayant sans doute bénéficié de sa participation antérieure à l'entreprise. Il semble que ce soit une triste coïncidence que l'année de la mort du général, en 1952, le service de train pour passagers du CP a fait son dernier trajet sur la ligne. Le général Hervey est décédé à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. Il est enterré à Maitland, en Ontario. Le déclin de la Peanut Line a été accéléré par la fermeture de l'ancienne gare de Cornwall en 1969. Et la démolition des voies à l'est de la rue Augustus. En février 1987, les hangars à marchandises ont brûlé et en novembre de la même année, une locomotive a subi l'indignité d'être renversée hors des voies par un camion de gravier alors qu'elle traversait le chemin Boundary nouvellement pavé. Avec la fermeture de Courtaulds en 1993, le CP a perdu son client principal et a donc décidé d'abandonner la sous-division en 1995 et de retirer les voix 3 ans plus tard, en 1998. Texte de Robin Flockton, le 23 novembre 2015. Merci de votre participation à la tournée.
Bonjour, mon nom est Jean-Marc Gladue. En tant que vice-président du conseil d'administration des conservateurs du Marais Cooper pour l'année 2021, je suis fier de commenter cette visite. Le Marais Cooper est une pierre précieuse parmi les aires de conservation de l'Est de l'Ontario. À chaque année, des milliers de visiteurs ont la chance de constater les trésors que nous réserve ce milieu humide. Situé sur les berges du pittoresque lac Saint-François, à 3 km à l'ouest de Lancaster et à 18 km à l'est de Cornwall, le Marais Cooper est en fait l'héritage de M. William Cooper Sr., qui fut président de l'aire de conservation de la région de la rivière Raisin, ainsi qu'ancien conseiller de la municipalité de Charlottenburg, dorénavant connu sous le nom de South Glengarry. Ce milieu humide, très apprécié, fait partie du vaste marais de Charlottenburg, un marais désigné terre humide d'importance provinciale de classe 1 en Ontario. En 1997, le Raisin Region Conservation Authority, ou RRCA, qui est propriétaire du Marais, s'est associé aux conservateurs du Marais Cooper, une organisation charitable sans but lucratif, composée de bénévoles dont le rôle est de voir à préserver, protéger, restaurer et entretenir ce milieu naturel pour les générations présentes et futures. Le Marais Cooper est ouvert toute l'année et l'entrée est gratuite. Le site est populaire auprès des familles, des randonneurs pédestres, des observateurs d'oiseaux, des photographes de la nature et des passionnés de plein air de tout âge. Ils viennent de l'est de l'Ontario, de l'ouest du Québec et même de beaucoup plus loin. Ils explorent avec un grand intérêt la flore et la faune du Marais et ses étangs isolés. Les visiteurs ont accès à 12 km de sentiers, incluant 1 km de promenade de bois, pouvant accommoder poussettes et chaises roulantes. Des plateformes, ainsi que des caches d'observation, permettent d'épier plus de 200 espèces d'oiseaux qui ont fait du Marais Cooper leur demeure pendant la période clémente de l'année. La pandémie actuelle oblige de respecter une distanciation de 2 mètres partout au Marais. Parmi les espèces d'oiseaux des milieux humides qui se reproduisent au Marais Cooper, on retrouve le balbuzard, le butard d'Amérique, le râle de Virginie, la marouette de Caroline, le héron vert, le canard branchu, le grèbe à bec bigarré, le bihoreau gris, la grue du Canada et l'inusité petit blongiot. Le Marais abrite aussi une grande variété d'espèces d'amphibiens et de reptiles, comme le crapaud d'Amérique, la rainette crucifère, la grenouille léopard, la tortue peinte, la tortue serpentine et plusieurs autres. En tant que centre éducatif sur les milieux humides, le Marais Cooper encourage les jeunes à se joindre aux nombreux programmes de formation offerts par le RRCA ou par l'Institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent. Lorsque la pandémie prendra fin, il sera aussi possible de réserver des excursions guidées spécialement organisées par le personnel du RRCA. Le centre d'accueil des visiteurs du Marais Cooper, présentement fermé à cause de la pandémie, est habituellement disponible comme centre d'interprétation et de formation pour les visiteurs et les étudiants. Il est normalement ouvert du mois d'avril au mois d'octobre. Des bénévoles du Cornwall and Area Birding Club et des conservateurs du Marais Cooper, de même que des étudiants d'été spécifiquement formés, offrent des services d'interprétation de la nature. Ils sont disponibles pour donner de l'information et répondre aux questions. Le centre d'accueil dispose de présentoirs de spécimens fauniques, de vidéos et d'informations sur les oiseaux, les plantes et la faune qu'on retrouve typiquement au Marais Cooper. Une nouvelle caméra, permettant les gros plans, a aussi été installée afin d'observer les balbuzards et autres oiseaux du marais central au sud du centre d'accueil, en retransmettant les images à l'intérieur sur un écran à haute définition. 5 caches et 3 plateformes d'observation facilitent aussi l'observation de la faune autour du marais. Les conservateurs du marais Cooper et le Raisin Region Conservation Authority travaillent constamment à une variété de projets dans le but de protéger et de restaurer la flore du marais ainsi que ses animaux sauvages, ce qui a pour effet d'améliorer pour les visiteurs l'expérience du milieu humide. Le marais est reconnu pour ses fleurs sauvages uniques, dont le lys du Canada et la lobélie du cardinal. Le groupe des fleurs sauvages des conservateurs du marais entretient une pépinière et un jardin écologique. Le docteur Philip Fry a mis sur pied ce groupe en 2016 et transféra sa pépinière personnelle de vivaces indigènes au marais Cooper. Les membres bénévoles du groupe des fleurs sauvages cultivent les plants à partir de semences qui sont transplantées dans des sites stratégiques du marais. Il en résulte que les populations de fleurs sauvages et de pollinisateurs prospèrent. Le jardin écologique devant le centre d'accueil des visiteurs est à son meilleur au printemps pendant la floraison. Le projet de nidification des oiseaux des conservateurs du marais voit à la construction, l'entretien et la surveillance de plus de 3 douzaines de nichoirs. Ces nichoirs servent pour la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux et d'abris pour d'autres espèces animales. Ce projet est mené conjointement avec le programme de nichoirs pour canards du Raisin Region Conservation Authority. Un suivi du programme a démontré que l'utilisation des nichoirs augmente le succès de la nidification pour les espèces qui les utilisent, comme l'hirondelle bicolore, le merle bleu et le canard branchu. Un livre anglais, The Legacy of Cooper Marsh, est présentement disponible auprès des conservateurs du marais, ainsi que chez certains commerçants locaux, comme l'épicerie Henderson à Lancaster, la fromagerie Glengarry Fine Cheese au nord du village et la quincaillerie Home Hardware à Alexandria. Ce livre, vendu pour la somme de 15 $, relate l'héritage et l'histoire naturelle du marais Cooper. Plusieurs individus ont contribué à la rédaction de ce livre, tous ayant une richesse de connaissances ainsi qu'une grande appréciation du marais, et ils sont heureux de partager leur passion. La restauration et l'amélioration du marais Cooper sont illustrées par des récits et des photographies de sa flore et de sa faune unique. Le livre anglais en est à sa seconde édition. Une version française intitulée « L'héritage du marais Cooper » sera bientôt disponible. Si vous désirez plus d'informations au sujet du marais Cooper et des conservateurs du marais, visitez-nous aussi sur les pages Facebook des Cooper Marsh Conservators et du RRCA. Nous vous remercions d'avoir participé à cette visite autoguidée de la région de Glengarry et nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions pour d'autres visites autoguidées, veuillez nous contacter.